RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le tout s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si, moi en tout cas avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, François Pinet.
Allez, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit, 22h minuit. Demain, ça sera Gilbert Bribois qui reprendra les clés du camion de l'after avec Samuel Hipois toujours là, qui a décidé de rendre un hommage à Strasbourg exprès parce que c'est la fin de l'été. Voilà, il sait que
Gilbert écoute. On aurait été peut-être gêné un peu.
Oui, non, mais en fait, c'est Gilbert qui lui a tout dit. Hein, c'est ça, il t'a dit de faire un... C'est l'idée de Gilbert.
Ça fait un moment. J'ai pas eu, tu
vois. Menteur, mais quel menteur. François Malardo est avec nous également. Et Fred Hermel est toujours là. Fred, hein, tu es bien là, en direct de Tallinn, puisque demain, on rappelle, 21h sur RMC Sport 1, à ne pas manquer la Super Coupe d'Europe qui ressemble à une finale de Ligue des Champions. Real Madrid contre l'Atlético Madrid. On parlait il y a un instant de Karim Benzema. On va parler un petit peu plus de cette équipe du Real Madrid qui a donc perdu Cristiano Ronaldo, parti à la Juve, qui a changé aussi d'entraîneur. Zinedine Zidane a quitté le club après 3 victoires en Ligue des Champions. C'est Julen Lopetegui qui arrive. D'ailleurs, un petit mot peut-être, Fred, sur Julen Lopetegui. Comment il est perçu à Madrid après ce qui s'est passé juste avant la Coupe du Monde? On le rappelle, il a été viré par la fédération de son poste de sélectionneur espagnol à quelques jours seulement du début de la Coupe du Monde parce que, eh bien, il avait signé, il s'était mis d'accord avec le Real Madrid. Comment il est perçu à Madrid?
Il est très aimé parce que c'est quelqu'un qui a été formé au Real Madrid, même s'il n'a disputé qu'un seul match officiel avec les Merengues, qui a joué au Rayo Vallecano, qui a joué au Barça aussi. Mais c'est, vous savez, tout le monde se souvient de cette magnifique phase de qualification pour le Mondial, avec que des victoires quasiment que des victoires. Il y a un match nul en Italie, mais on se souvient tous de ce 3-0 à Bernabeu il y a juste un an en qualification contre l'Italie. Le football de Lopetegui avec La Roja, c'était un beau football, c'est un football équilibré. Définitivement offensif, avec qui convient tout à fait à ce qu'on aime en Espagne. Sincèrement, j'étais au match samedi soir. Il n'y a pas une énorme différence entre le football que montrait le Real de Zidane et celui de Lopetegui. Ils sont dans la même logique, qui est la logique madrilène. Au Real, on peut jouer en contre, mais on joue pas défensivement. On met pas 11 mecs derrière. On essaie de jouer dans le camp de l'adversaire. Peut-être qu'il y a un peu plus de travail réalisé par les attaquants, tout simplement parce que Cristiano Ronaldo n'est plus là. Et que comme Ronaldo ne défendait pas, les autres parfois avaient un petit peu du mal à se sacrifier pour ça. Alors que là, on voit tous les attaquants faire un premier rideau défensif. Donc je veux dire que l'équipe, elle est peut-être un tout petit peu agressive, un peu plus agressive que celle qu'on voyait du temps Zidane. Mais je crois que c'est plus lié au départ de Ronaldo qu'à une différence de coaching.
Fred, indépendamment de mon point de vue, des questions de jeu, d'animation et de casting, tu es triple champion d'Europe, ce qui ne s'est plus produit depuis les années 70 avec l'Ajax, puis le Bayern. Moi, ma principale interrogation, Fred, et peut-être que tu peux y répondre, c'est ce Real avec son standing. Oui, certainement, il a encore faim sur le papier. Est-ce que toi, avec tes connexions au club, tu penses que ils se sentent capables de faire la passe de 4? D'ailleurs, le dernier club qu'il a fait dans l'histoire, c'est le Real Madrid, puisqu'ils ont gagné 5 successivement. Mais c'était un autre millénaire.
Les 5 premières. Bon, je vais pas révéler la source, mais l'autre jour, lors d'un verre pris avec quelqu'un, un important dirigeant, c'est pas possible d'en faire 4, quoi. Mais déjà 3 à l'époque, aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a en Europe, c'est incroyable ce qui s'est passé.
C'est extraordinaire.
Le Real a conscience que la saison. Mais bien sûr, mais je pense qu'on n'a pas assez souligné ça. C'est-à-dire que je pense que si Guardiola avait fait ça, on en ferait encore des tonnes aujourd'hui. Donc, mais comme c'est le Real et comme surtout c'est Zidane, on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas assez donné de valeur à ce qui a été réalisé. Et puis moi, ce qui m'impressionne le plus que les 3 en 3
France
ans,
ou en Espagne,
c'est les 4 en 5 ans.
En France ou en Espagne?
En France, je parle. Oui. En France. 4, mais moi ce qui m'impressionne le plus, c'est les 4 en 5 ans. C'est-à-dire que l'autre avait gagné par le Barça. C'est une hégémonie extraordinaire. 4 en 5 ans, c'est un truc de malade. Donc le Real Madrid, et je pense que les dirigeants ont conscience, d'ailleurs c'est l'un des dirigeants qui m'avait dit ça il y a quelques semaines, que c'est impossible d'en gagner une autre, quoi. Enfin,
et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir est-ce que humainement, il peut y avoir, comme l'Ajax l'a connu, comme le Bayern l'a connu, mais dans cette autre formule de la Ligue des Champions. Je vous dis juste que l'Ajax, triple champion d'Europe, puis le Bayern, triple champion d'Europe, ils se font sortir soit au premier, soit au deuxième tour. Pas par des pitres, mais je crois que c'est le CSKA Sofia qui sort l'Ajax en 74, et c'est le Dynamo Kiev qui sort le Bayern en la victoire de contre le Saint-Etienne en 78. Mais est-ce que bon, alors je pense que le Real va sortir de la phase de poule, Fred.
Oui, bien sûr.
Voilà. Après la question, ça va être.
Après, il y a quelque chose d'important.
Du 8e.
Ouais. Oui, mais alors on a beaucoup parlé des départs, mais il y a un type qui est resté quand même. Vous savez qui il est?
Modric.
Non, Pintus, le préparateur physique.
Ah.
Oui, c'est un homme clé dans la préparation du Real. Dans la préparation. Donc en fait, le Real Madrid a souvent des problèmes en début de saison, notamment au cœur de l'automne, voilà, vers octobre, novembre, etc. Et puis ils se remettent un petit coup pour la mondiale des clubs, et puis après ils sont prêts pour les huitièmes de finale. On se souvient ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain la saison dernière, alors que tout le monde avait enterré le Real. Mais sincèrement, je pense que la Ligue des Champions cette année n'est pas l'objectif principal du Real Madrid.
Ah.
C'est la Liga.
Mais Fred, moi,
c'est vachement important. Attends, tu te rends compte, pardon, Sam, à quel point ils sont rassasiés de la Ligue des Champions.
Non,
c'est un truc, c'est incroyable de le dire.
Non, mais c'est
que c'est la Liga. Non, mais je comprends que la Liga soit l'objectif numéro 1 bis.
Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est le titre le plus dur à gagner au monde. Et ça, Zidane, entre il donnait plus d'importance à la seule Liga qu'il avait gagnée qu'à ses trois Ligues des Champions.
Ouais,
sincèrement, parce qu'il trouvait que c'était beaucoup plus difficile de gagner une Liga. Et Lopetegui, qui veut s'imposer comme un grand entraîneur, même s'il perd la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, il faut quand même une part de chance à un moment ou un autre. Il y a un ballon qui rentre ou qui rentre pas à la dernière minute. Il y a un pénalty sifflé ou pas sifflé à la dernière minute. La Liga, qui est le championnat le plus compétitif au monde, c'est la régularité. Et je sais que Zidane, lui, était très fier d'avoir gagné la Liga parce qu'il avait vraiment l'impression d'avoir démontré au monde qu'il était un grand entraîneur. Et Lopetegui, il doit le faire là aussi. Parce que Lopetegui, il n'a gagné qu'un titre dans sa carrière. Je le disais tout à l'heure, c'était l'Euro en Israël avec les Espoirs. Et la sélection espagnole Espoir, en 2013. À Porto, ça s'est pas forcément très bien passé. Là, au Mondial, il n'a pas eu l'occasion de défendre ses intérêts puisqu'il a été viré deux jours avant. Mais là, je pense que... Et le Real Madrid n'a gagné que deux Ligas en 9 ans. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. L'Atlético a gagné, en a gagné une, et le reste c'est le Barça. Donc du côté du Real, il y a vraiment le sentiment que que ça pêche au niveau de la régularité, et que un entraîneur qui veut démontrer qu'il est un grand entraîneur au niveau international, quelqu'un comme le Lopetegui, s'il gagne la Liga, on considère qu'il a fait une belle saison, même s'il est éliminé en quart.
Ils ont quand même fait le doublé, le Real.
23h07 sur RMC Sport dans l'After. Samuel.
Ouais, Fred, moi, j'aimerais revenir un peu sur la relation, Julian Lopetegui avec Benzema. Donc, on sait que tout coach, qui s'installe sur le banc du Real a forcément de la pression. Est-ce que Lopetegui aura la même patience, comme l'a pu avoir Zidane par rapport à Benzema? Puisque Benzema sera plus ou moins l'attaquant numéro 1, dans le sens que Benzema, s'il a des stats un peu comme l'année dernière, est-ce qu'il va continuer plus ou moins à le faire confiance, ou tu crois que par rapport au fait qu'il a une certaine pression, il doit avoir des résultats, il doit prôner du beau jeu, est-ce que tu penses qu'à un certain moment il va devoir revoir un peu son effectif offensif?
Mais ça dépend de quelle stat tu parles. Benzema a été le meilleur passeur du Real la saison dernière. Pas le meilleur buteur, mais parce qu'un attaquant comme Benzema, justement avec la
philosophie de Zidane... Oui, mais maintenant qu'il passe numéro 9, Fred, maintenant qu'il passe numéro 9, on va attendre plus de lui.
Enfin, pas numéro 9, qui est le buteur avec Bale. Ils doivent se partager avec Bale et Asensio les buts que marquait Cristiano Ronaldo. Je sais pas si je l'ai dit maintenant ou tout à l'heure dans Super Football Show. Ouais, je rentre de vacances, j'ai oublié le nom. Avec François déjà. Lopetegui, quand il était à la cellule de recrutement du Real, avait recommandé le recrutement de Benzema.
Oui, mais ça c'est aujourd'hui, passé, ça s'adapte.
À ma question. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il a dit, je pense que tout le monde sait toute la passion que j'ai pour Karim Benzema. Il l'a redit aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est quelqu'un... Vous savez, moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens importants du foot, Et tous ceux qui sont importants dans le foot adorent le jeu de Benzema.
Oui, non, mais bien
c'est
sûr,
pas,
ça.
C'est pas un hasard, quand
juste
même.
Juste,
Et l'OP, voilà. Les gens qui connaissent le foot, en général, ouais, comprennent le rôle de Benzema au Real, même quand il ne marque pas.
Fred, j'aimerais bien qu'on parle quand même, de l'Atlético Madrid, de l'adversaire du Real Madrid. Je vous rappelle qu'on parle de cette Super Coupe d'Europe demain, 21h, sur RMC Sport. Ça sera en exclu. Real Madrid, Atlético Madrid. Un petit détour par Thibaut Courtois, justement, pour faire la transition avec l'Atlético Madrid. Thibaut Courtois qui va vivre un moment particulier, lui qui a joué à l'Atlético Madrid et qui retrouve le Real Madrid. Ça va être chaud, non, pour lui, le gardien belge?
Alors, c'est intéressant que tu précises qu'il a joué à l'Atlético, mais il n'a jamais appartenu à l'Atlético.
Il était prêté, non, puisqu'il était prêté par Chelsea.
Il était prêté par Chelsea.
Ouais, ouais.
Même si, voilà, c'est quand même une nuance importante. Demain, Thibaut Courtois normalement ne devrait pas jouer. Hein, c'est Keylor Navas, parce que Courtois il a 4 entraînements dans les jambes. Hein, donc, il faut quand même régler 2-3 trucs. On ne joue pas. Hein, et surtout que Navas, c'est quand même un super gardien. Il vient de gagner 3 Ligues des Champions, lui. Hein, ouais, ouais. Pas oublier. Hein.
Oui, mais donc, justement, il y a une gestion Courtois, des gardiens à faire puisqu'il a amené, je crois, Lopetegui.
Oui, mais ce sera pour après.
Il y a Lucas Zidane aussi qui est la Casilla qui est dans le groupe.
Oui, mais il va partir. Ouais. Ah,
ouais.
Mais on peut, si on parle de demain, demain c'est Keylor Navas.
Ouais.
À partir de dimanche 22h15, Real Madrid Retafé, là il est possible que Thibaut Courtois, attendez, Courtois il est pas venu pour rien, les dirigeants du Real l'ont fait venir parce qu'il va être le gardien numéro 1.
Ouais,
tout le monde le sait à Madrid.
Oui, bien sûr.
Et Fred, franchement, si Keylor Navas arrive à garder sa place, il est extraordinaire. Il en enterrait d'autres, hein, Navas, mais là sincèrement Courtois, et puis on va expliquer pourquoi Courtois est au Real. OK, il y a l'attirance d'un club extraordinaire, mais c'est avant tout pour des raisons personnelles, parce que sans rentrer dans des détails trop intimes, Thibaut Courtois, quand il était à l'Atlético, il tombe amoureux d'une jeune Espagnole, il s'est marié avec elle, ils ont eu 2 enfants, ils étaient à Londres, et puis ça arrive, ils ont divorcé, mais madame est revenue à Madrid avec les enfants. Et lui vivait très très mal, et on peut le comprendre, d'être séparé de ses enfants. Mmh. Et donc ça fait au moins un an et demi, que son agent tape tous les deux jours à la porte de Rosarel Sanchez, le directeur général du Real Madrid, en disant Thibaut, hein, c'est qu'on voulait. Hein. Donc voilà, ouais. Comme on donne espagnol, là, bon, c'est un peu compliqué à faire en français, donc bon, j'allais sortir une expression. Il y a deux intérêts qui se sont retrouvés, le désir absolu de Courtois de revivre à Madrid, de revenir vivre à Madrid, et la volonté du Real Madrid d'avoir un autre gardien de haut niveau, parce que franchement Kiko Casilla, il a pas le niveau d'être même la doublure de Navas. Il y avait trop d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2. Là on a deux super gardiens. Voilà, et en cas de blessure, il y aura une garantie derrière. Donc après l'Atlético, oui, ça pose problème parce qu'il y a toujours des cons et voilà. Vous savez, du côté du Wanda Metropolitano, il y a une sorte de Walk of Fame comme à Hollywood, où il y a les étoiles des joueurs qui ont marqué l'histoire du club, qui ont joué, je crois, plus de 50 matchs dans le club, ils ont le droit à leur étoile. Et celle de Courtois a été vandalisée par des imbéciles qui estiment que Courtois a trahi l'Atlético. Bon, il y a toujours des types qui en font un peu trop. Et j'insiste,
ouais.
Courtois n'a jamais appartenu aux Colchoneros.
Fred, parle-nous un peu du jeune prodige là, brésilien. Là. Ce qui paraît, c'est un démon, lui.
Vinicius.
Oui.
Alors, il a été acheté l'an dernier. Il était au Flamengo. Il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 18. Il arrive à Madrid. L'idée était de le prêter. Sauf qu'il fait une tellement belle préparation de saison.
J'ai vu ça, ouais.
Qu'il est fort possible qu'il le garde. Mmh. Alors, vous savez pourquoi? En fait, parce que bon, c'est une sorte de petit Neymar. Vous voyez, genre, c'est, ouais, un petit Brésilien. Sauf que physiquement, il est beaucoup plus puissant que Neymar. Le problème de ces Brésiliens quand ils arrivent en Europe, c'est qu'ils sont légers physiquement. Ils ont du mal à tenir le rythme et à tenir le coup face au coup, je me répète, qu'ils peuvent recevoir parce qu'ils ont des jeux qui provoquent. Mmh. Avec ses bicyclettes, ses talonnades, etc. Donc les défenseurs adverses ne s'embêtent pas, hein. Ils mettent des gros coups, des gros taquets. Là, ce qu'on a pu voir, est-ce que moi, ce qui m'a surpris quand je l'ai vu pour la première fois jouer en vrai, c'était au stade samedi soir à Bernabéu, c'est que il est quand même bien plus trapu. Il semble plus fort physiquement. Et il est fort possible que si le Real ne fait pas de recrues importantes d'ici à la fin du mercato de cet été, que Vinicius reste au Real Madrid et ne soit pas prêté, et qu'il puisse être utile un coup de temps en temps à cet été. En tout cas, il a déjà suivi le public, hein, parce qu'il est virevoltant et c'est exact. Il a peur de rien, il ose tout, Et ça, on aime ça au Bernabéu.
Fred, François et Sam, quand même un petit mot sur l'Atlético Madrid, sur l'adversaire. Là, on a beaucoup parlé du Real Madrid. L'Atlético Madrid qui, dans son groupe, a les trois champions du monde, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar, la nouvelle recrue. Il y a eu le recrutement de Kalinic qui a remplacé Gamero. On sent une équipe de l'Atlético Madrid plus forte parce qu'en plus, elle a gardé Simeone, bien sûr, son gardien Oblak. Et elle a gardé Griezmann, quand même. Hein. Griezmann, auréolé du titre de Bougine champion du monde.
Dans l'axe.
Oui, oui, et en plus, il a gardé la défense, il y a Felipe Luis à gauche.
Lucas Hernandez est remplaçant l'Atlético. Hein.
Oui, oui, c'est Felipe Luis.
Non, mais c'est terrible.
Felipe Luis qui joue. Ouais, non. Pour dire qu'il y a quand même un effectif énorme à l'Atlético. Ouais, ouais. Et on va écouter Simone, qui parlait tout à l'heure en conférence de presse à Tallinn, du rapprochement qu'on peut faire entre l'Atlético Madrid, le jeu de l'Atlético et le jeu de l'équipe de France.
Le football est merveilleux pour ça. Personne ne détient la vérité. On peut gagner de différentes manières. On a pu le voir avec la victoire de la France. Je ne sais pas si le jeu des Français est similaire à notre jeu. Mais oui, il y a des ressemblances avec notre football.
Ah, Diego Simeone est 23h15 sur RMC dans l'After, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui ne va pas changer sa méthode, Fred. Hein. C'est une méthode qui fonctionne.
Non.
C'est une méthode qui continuera à fonctionner du côté de l'Atlético.
Non, il y a parfois eu quelques petites évolutions, mais chasse naturelle, il revient au galop. On le verra demain soir, c'est le Real qui aura la balle et l'Atlético qui va avant tout bien défendre, essayer de prendre les merenguesons en contre. Donc c'est une opposition de style. Voilà, Simeone a eu un petit coup de mou hein, en début de saison dernière à l'Atlético, mais là franchement le retour de Diego Costa en janvier a fait un bien monstre à cette équipe. Si l'Atlético gagne la Ligue Europa, c'est parce que il y a Diego Costa qui arrive et que ça a une influence directe sur le jeu de Griezmann, qui aime, comme on le sait, ne pas être seul en pointe, mais jouer derrière un attaquant qui fait le sale travail entre les défenseurs centraux. Il est très content de Lemar, qui fait une préparation de saison, une intégration beaucoup plus rapide que prévu. Cette équipe, franchement, Gamero est parti. Mais bon, ah oui, on a oublié, il y a Jelson Martins qui est arrivé aussi, qui pourrait arriver à un moment, à être intéressant à un moment ou à un autre. Franchement, Godin...
Il m'a dit du bien de Rodri aussi, le milieu de Villarreal.
Rodri, oui, ouais. qui pourrait être titulaire demain, hein, Rodri.
Une sorte de petit Busquets.
Qui devrait jouer demain. Voilà, et puis aussi le capitaine Godin reste. Bon, ouais. Gabi, le capitaine éternel, est parti. Mais bon, il jouait de moins en moins. Mais Godin, le chef de la défense, qu'on connaît bien, il a eu des offres aussi. Mais il est resté, voilà, il y a une augmentation de salaire. Et rappelez-vous, l'Atlético, il y a 7-8 ans, vendait ses bons joueurs. Forlan, Agüero, Falcao, vous vous souvenez?
Ouais.
Aujourd'hui, il les garde et il a l'argent pour les augmenter et les garder.
Ouais.
C'est là
la grande différence. Il y a un changement. Merci beaucoup, Fred. On va te libérer parce que demain, t'as une grosse journée. T'avais déjà une grosse journée aujourd'hui. Hein, t'as fait le tour du cadran.
C'est un bonheur de vous
retrouver. On est content de t'avoir retrouvé effectivement dans l'after. Et demain, grand événement avec toi sur RMC Sport. Donc, cette Super Coupe d'Europe entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. On continue à parler un petit peu. Salut Fred.
Ciao Fred,
à bientôt.
Ciao Fred.
Et à
Merci.
Demain sur RMC. L'Atlético Madrid, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un basculement, que l'Atlético Madrid peut passer devant le Real Madrid?
Non.
Ils ont gardé leur cadre alors que le Real Madrid a perdu Cristiano, a perdu Zidane.
Sur le championnat, sur la Liga?
Sur la Liga, sur la Ligue des Champions. Godin a dit tout à l'heure en conférence de presse que c'était un rêve pour l'Atlético Madrid, qui voulait enfin remporter cette Ligue des Champions.
Oui, mais je pense que la Liga, comme Fred l'a aussi souligné, de par ce qui s'est passé avec la Liga et le Real, même si le Real a gagné il y a 2 saisons, ils ont fait le doublé, je l'ai rappelé, entre la Ligue des Champions et le Real, ce qui n'était plus arrivé au Real Madrid depuis les années 50. Mais le Real, sans doute plus pour objectif la Liga, Barcelone va pas lâcher son titre de champion, et l'Atlético peut être encore un peu plus fort, donc ça va être un mano-mano à 3 qui risque d'être exceptionnel, où ça peut se jouer à la différence de but. Je vois pas une équipe parmi ces 3-là se détacher, parce que autant Barça, champion d'Espagne, aura peut-être envie depuis 2 saisons, voilà, de se racheter un peu sur la scène européenne, 2 fois sorti en quart de finale, la dernière par la Roma, on s'y attendait pas trop. Donc ils vont pas lâcher la Liga, hein, les Catalans, mais... Ça va être une course effrénée et excitante.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Atlético...
Ah, j'ai mal compris votre question.
Pardon. Non, pas du tout. Mais l'Atlético a gardé, par exemple, Simeone, a gardé le même principe. Ouais. Et en plus, un Griezmann qui arrive. champion du monde.
Ouais, avec.
Il a plus de problème à savoir s'il va rester ou pas. Son contrat est ficelé et il est bien ficelé. Donc il y a un Griezmann quand même en super forme qui vient de gagner deux compétitions majeures, la Ligue Europa et la Coupe du Monde. Tout ça me fait dire que l'Atlético Madrid, par rapport à un Real Madrid, oui, peut-être dans un cycle différent, dans un début de cycle nouveau, l'Atlético Madrid peut pourquoi pas être le premier club de Madrid.
Si ce
ne sera pas le premier club espagnol, peut-être le premier club de Madrid.
Ils peuvent prétendre, hein, ils peuvent prétendre pourquoi pas à gagner cette Liga, parce que quand tu vois le Barcelone, bon, il y a eu quand même pas mal d'arrivées. Il faut voir comment tout ça va prendre. Il y a quand même Suarez. Ça commence à être un peu dans le déclin, ça commence un peu à vieillir. On a vu un peu, on va voir ce que va donner Messi, parce que bon, si c'est le Messi qu'on a vu lors de la Coupe du Monde, Barcelone aura quand même quelques soucis à avoir, ouais. Parce que le jeu de Barcelone repose beaucoup sur Messi. Et quand tu vois le Real Madrid, quand tu as une perte d'un joueur effectivement qui te marquait 60 buts dans la saison, ça aussi il faudra l'amortir. Donc moi je vois peut-être cette équipe de l'Atlético, pourquoi pas bousculer la hiérarchie.
Donc ça en Liga et en Ligue des Champions, est-ce qu'elle est capable de faire quelque chose?
Le Barça?
L'Atlético, puisqu'on parle de l'Atlético.
Elle est capable et elle doit une revanche à tous ses supporters par rapport à sa sortie en phase de poule la saison passée. Mais par rapport à ce que tu soulignais sur le Barça, moi je pense que c'est plutôt le départ d'Iniesta. Et puis en revanche où je te rejoins, mais c'est pas sur Messi, moi c'est plus sur Piqué et Busquets que je pense que le déclin là véritablement est entamé. Bon, après on reste sur une qualité de jeu avec Messi évidemment, mais une qualité de jeu, une culture de jeu qui te permettra franchement d'être dans les trois premiers. Sur la Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid, ils auront vraiment vraiment à cœur de se rattraper de leur gros raté de la saison passée en Ligue des Champions, même s'ils gagnent la Ligue Europa au final.
Et pour le match de demain, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous imaginez que ça va être déjà un match qui peut compter dans la saison? C'est-à-dire que si l'Atlético l'emporte, mettre un peu la pression sur le Real Madrid, et l'inversement, si le Real Madrid gagne contre l'Atlético, ils vont se dire encore, on a encore perdu un titre.
Mettre un peu la pression, oui. C'est un trophée international. C'est un trophée européen. Le Real a remporté les trois dernières. Je vois un appétit pour des raisons aussi d'hégémonie au niveau de Madrid, de la ville. Et puis, c'est quand même le complexe d'infériorité. Il est du côté de l'Atlético. Donc, il y a une façon, et enfoncer une porte ouverte en disant ça, François, mais c'est des monstres à gagner.
Oui, mais l'Atlético Madrid n'avait pas non plus cette image d'un grand club européen. Elle se le construit dernièrement. Ils sont finalistes, ils ont gagné la Ligue Europa qui était pour eux honnêtement c'était facile pour eux de gagner la Ligue Europa puisque on les voyait tous
gros contre Marseille.
Contre Marseille mais même
il va nous dire que c'est facile de gagner l'Europa que Balotelli fait grâce de deux ans.
Mais l'Atlético Madrid c'est un club de Ligue des Champions, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un club pour la Ligue Europa, ils sont largement au-dessus de la Ligue Europa.
Après contre Arsenal ils sont pas non plus totalement baladés.
Oui, mais on les voyait gros comme une maison dès qu'ils ont été reversés en Ligue Europa.
Oui, on l'a vu.
Et on a vu qu'ils ont gagné.
On les voit pas.
Avec la méthode de l'Atlético Madrid, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'était pas une évidence, et maintenant c'est une équipe qui peut, pourquoi pas, peut faire partie des favoris de la Ligue des Champions dès la saison prochaine.
Je pense qu'elle en est favorite au même titre qu'elle était l'année passée. Après, tu as sur le plateau de cette Ligue des Champions, au niveau de cette compétition aujourd'hui, t'en as pas trois les favoris, hein. T'en as 7. Et l'Atlético Madrid en fait partie. L'année dernière, ils sortent avec un groupe où il y a un demi-finaliste, qui est l'AS Rome, mais qui aurait pensé que l'AS Rome était potentiel demi-finaliste de la Ligue des Champions, en sortant le Barça en quart, et de quelle manière? T'avais Chelsea, Rome, Atlético Madrid, et il me semble Karabakh, le club azéri. Ils finissent troisième. Ils font des résultats catastrophiques contre, je pense qu'ils font un nul à domicile, ou alors ils font un nul en Azerbaïdjan, alors que c'est quasiment la même équipe sans Lemar et sans Martins qui est arrivé. Donc j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire, mais évidemment que oui, c'est un des favoris de cette Ligue des Champions avec un autre style, mais c'est un des favoris.
Non, mais surtout quand tu gardes la même ossature, je pense qu'avec les renforts justement de Lemar et de Martinez, je crois que c'est vraiment un prétendant à prendre vraiment au sérieux cette année.
Ouais. Et donc on rappelle demain 21h RMC Sport, ça sera en direct et en exclu ce match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, la Super
Coupe d'Europe. C'est qui commente, tu sais?
déjà?
Non, mais Fred Hermel est là-bas, il y a Mohamed Bouafsi, il y a beaucoup, il y a toute l'équipe RMC là-bas,
hein,
sur place. Il y a du monde sur place.
Il y a du lourd. Hein.
Jérôme Bretagne aussi est à Tallinn.
Ah, bah alors, oui, bah alors, il est très très lourd, alors. Alors, il est très très lourd.
Voilà, donc ça sera en direct, évidemment, en exclu. Et puis, vous le savez, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, toute la saison sur les antennes d'RMC Sport. Et dans un instant, on va parler du Mercato, le Mercato Show, avec des infos sur un ancien champion de France avec l'OM qui retrouve la Ligue 1. On vous dira où dans un instant. Et puis des bonnes nouvelles pour les supporters stéphanois qui nous écoutent. J'ai une info à vous donner. Plutôt, c'est Valentin Rodriguez qui va venir avec nous dans l'after pour nous donner toutes ces infos. A tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, François Pinet.
23h25, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit, vous le savez, sur RMC et sur RMC Sport News, à la télé et à la radio. Dans un instant, le quiz, on vous attend au 32-16 pour jouer avec Samuel Hippoua,
oui,
qui est toujours là,
mais
François,
oui,
Manardo.
Mais joué.
Et gagner de place pour le film Equalizer 2.
Et oui,
Equalizer 2, comme vous voulez, avec Denzel Washington. C'est un carton au box-office américain. Et ça sort demain, d'ailleurs, en France. Valentin Rodriguez nous a rejoint dans ce studio. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs.
Salut Valentin.
Bonsoir, bon, c'est toi qui te colle au Mercato Show aujourd'hui. Vous le savez, c'est toute l'actualité transfert tous les soirs dans l'after. On vous donne des infos et on commence par la Ligue 1. Et un feuilleton qui enfin se termine et ça va soulager certains supporters, c'est Rémi Cabella qui normalement devrait arriver chez les Verts, c'est ça?
Oui, les deux clubs ont trouvé un accord ce soir pour un transfert avoisinant 7 millions d'euros. Le joueur est attendu demain pour passer sa visite médicale. Il sera même dans le groupe stéphanois ce week-end pour le déplacement à Strasbourg.
Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Cabella,
quand même,
pour Cabella, Casri, Mvila, Selnes,
Kolo Tezak.
Ouais, je pensais plus au joueur qui apporte une étincelle dans le jeu plutôt qu'à Timothée Kolo Tezak.
Johnny peut être une recrue aussi.
Johnny, reste à voir.
Beric.
Je mettrais plus Beric devant. Mais elle a de la gueule, cette équipe stéphanoise, je trouve. Hein.
Tu vois, si tu fais un avis bientôt, disant que Saint-Etienne peut finir cinquième, je mets un billet.
Non, non, mais moi j'aime bien cette équipe stéphanoise. Mais non, c'est Cabella, il connaît la maison. Mais bon, moi, mais je reste persuadé. Hein, je vais te
d'accord,
dire.
D'accord.
Et je le dis encore, c'est pas présomptueux ce que je dis, mais ils ont rien. Strasbourg n'a rien envie à cette équipe.
Mais comme quoi, sur Saint-Etienne, le coup de gueule, ou en tout cas ce qu'a dit Jean-Louis Gasset, en quelque sorte à ses dirigeants, a fonctionné.
Il sait les mettre les coups de gueule.
Voilà. Et il voulait du renfort. Il a eu du renfort et a priori.
Mais bon, c'est un renfort que Saint-Etienne connaissait déjà.
Ils voulaient le garder. Ils ont mis 7 millions d'euros quand même. Hein.
Non,
c'est pas forcément évident. Ils ont sorti 7 millions d'euros pour
les amis du ballon. Là.
Pour recruter Rémi Cabella. Puisqu'on parle d'un ancien joueur de l'OM ou bientôt ancien joueur de l'OM, Rémi Cabella, on va continuer avec l'OM qui s'intéresserait à un milieu égyptien.
Oui, c'est Mohamed El Neni, le milieu de terrain d'Arsenal, qui pour remplacer Zambo Anguissa, le milieu récupérateur égyptien a disputé que 14 matchs la saison dernière. En plus, il subit une concurrence assez impressionnante au milieu de terrain, Ramsey, Guendouzi, Torreira notamment. Donc, ça serait quand même le deuxième égyptien de l'OM, si jamais il vient, après l'inoubliable Mido en 2004.
Mido, ouais.
Bien sûr.
Ah ouais, mais Mido, il m'a laissé des bons souvenirs. Même s'il a pas joué beaucoup, il a pas fait des grandes performances, mais c'était un joueur un peu fantasque. Moi, j'aimais bien.
Un peu, complètement.
Elneny, pour l'Olympique de Marseille, ils ont besoin d'un milieu de terrain depuis le départ de Zambo Anguissa. Ça ressemble à quand même une bonne recrue.
Oui, ça peut être intéressant.
Alors, c'est pas faire, évidemment, mais.
Il est actif hein, sur le terrain, il court énormément. Bon, maintenant c'est peut-être moins de puissance que Anguissa, mais
c'est peut-être plus de technique.
Ouais, ça peut être. C'est vrai que ça ressort beaucoup plus proprement le ballon. Ça peut être un joueur intéressant.
Je me souviens de lui à l'occasion des trois matchs de la sélection des Pharaons à la Coupe du Monde. Je trouvais qu'il courait, oui, beaucoup, mais un peu
brouillon des fois.
Ouais, brouillon, exactement.
C'est un peu
à l'image de l'équipe égyptienne.
Oui, il n'était pas aidé. Ah. Non mais il n'était pas aidé. Moi j'avais trouvé qu'il avait fait un très bon premier match contre l'Uruguay. Quand il perd 1-0, il avait été plutôt pas mal. On ouvre le dossier toulousain avec, justement, je vous en parlais, le retour d'un ancien champion de France marseillais, Stéphane Mbia, est de retour.
Ouais, libre après son passage en Chine au eBay Fortuné et qu'il avait rejoint en 2016. Stéphane Mbia donc va donc s'engager avec Toulouse. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur Twitter. Il a dit très heureux et fier de vous annoncer ma signature dans les prochains jours au Toulouse Football Club. C'est avec une grande joie que je vais retrouver la Ligue 1. Cependant, rien n'est officiel. Hein. Le Camerounais n'a pas encore signé, n'a pas encore passé sa visite médicale. Alain Casanova a d'ailleurs même déclaré sur nos antennes tout à l'heure « J'espère qu'il sera aussi rapide sur le terrain qu'il ne l'est pour annoncer des bonnes nouvelles. » Voilà, bon, c'est un joueur d'expérience, clairement, qui arrive à Toulouse. Champion de France, on le rappelle, 2010 avec l'OM. Et il a également remporté la Ligue Europa à deux reprises avec le FC Séville.
Ouais. Ça fait du bien, ça fait plaisir de le revoir, non, Stéphane Mbia,
Camerounais. Non, bien sûr, moi, ça me fait plaisir, effectivement, de le revoir. Il a fait de très bonnes choses dans sa carrière. Maintenant, je trouve que franchement, la cellule de recrutement du TFC manque d'imagination. Franchement, si tu vas aller chercher Mbia, quel message tu lances encore à tes
peut-être
jeunes?
Peut-être qu'elle avait besoin d'expérience, justement. Ouais, bon, c'est ce que nous a dit Alain Casanova tout à l'heure dans le Super Football Show. Ouais, il avait besoin de quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui pouvait aussi jouer à plusieurs postes, puisqu'il peut jouer en défense centrale et au milieu de terrain.
Non, mais très bien. Mais je pense toujours que la cellule de recrutement manque d'imagination. Je crois que cette expérience, tu peux peut-être la trouver peut-être un peu plus jeune, avec un joueur qui est encore un peu, voilà, déjà Casanova, il s'inquiète déjà de dire est-ce que ce joueur-là va courir aussi vite qu'il annonce ses nouvelles.
Non, mais c'est une blague, ça.
Ouais, c'est... mais c'est une blague, mais il la sort quand même. C'est pour, quand même pour te dire que le joueur, il a quand même un certain âge. Pour, voilà, non, mais c'est une blague qui a son sens.
Sur l'âge.
Pas il a 32 ans, hein, c'est pas non plus.
Non, mais sur la capacité à être un bon niveau de Ligue 1 après avoir quitté l'Espagne pendant 2 ans ou même peut-être un peu
je suis vraiment trop loin du micro après avoir quitté l'Espagne et Séville pendant je crois 2 ou 3 ans je sais pas ce qu'il a donné évidemment en Chine mais on sait tous que c'est un championnat qui est de piètre qualité par rapport au nôtre. Je suis curieux de voir quel Stéphane Mbia il récupère évidemment mais je dois pas être le seul.
Et le TFC qui pourrait perdre aussi son arrière-gauche, Moubandje.
Oui, à un an de la fin de son contrat, l'international suisse est suivi par plusieurs clubs. Selon nos informations, le Real Sociedad, Betis Séville ou encore Porto sont entrés en contact avec le TFC. Le club espagnol d'Alaves a même formulé une offre de 1,5 million d'euros refusée par le club toulousain qui, lui, exigerait entre 4 et 5 millions d'euros pour laisser partir son latéral gauche.
Alain Casanova a bien précisé qu'il aimerait qu'il n'y ait pas de départ et qu'une fois le transfert officiel de Mbia, que ça soit terminé dans le sens des arrivées et dans le sens des départs. C'est pour ça qu'il a fermé la porte, en tout cas en direct sur RMC, à Christopher Julien, sauf offre mirobolante de dernière minute. Et pour François Moubandje, le problème, c'est qu'il est en fin de contrat, effectivement. Donc, s'ils veulent récupérer un peu d'argent dans l'histoire,
c'est maintenant
ou jamais.
Ouais, et sauf que, surtout, et tout le monde le sait, hein, au TFC, c'est pas Alain Casanova qui décide, c'est Olivier Sadran qui décide. On sait qu'Olivier Sadran aime bien vendre. Il aime bien faire entrer.
Bah, il aime bien vendre. Il fait tourner son club.
Bah, c'est ce que je dis. Il aime bien vendre. Je dis.
C'est non, mais est-ce que c'est pas nécessaire pour un club comme Toulouse de vendre?
Très bien. C'est pas une critique que j'aimais là dedans. Je veux dire que c'est un président qui aime bien vendre. Voilà. Et il vend bien. Donc maintenant, si Casa lui dit demain, Sadran, il vendra quand même. Si effectivement c'est au tarif de 4-5 millions, il vendra.
On reste dans le Sud-Ouest. Bordeaux pourrait perdre un attaquant.
Oui, selon nos informations, c'est Gaëtan Laborde qui se rapproche sérieusement de Montpellier. Les Girondins ont reçu une offre de 5 millions d'euros, hors bonus pour leur attaquant de 24 ans. Les Girondins demandent 6 millions. Cette offre n'a pas encore été acceptée, mais ça se fera dans les prochaines heures.
Gaëtan Laborde, qui était aussi convoité, on avait eu Thierry Loret hier, par Strasbourg, par Toulouse aussi. Voilà, donc c'est un joueur qui est plutôt convoité, qu'on a vu lors de la première journée. C'est un combatif, Gaëtan Laborde, c'est un bon joueur pour la Ligue.
Qu'on a vu contre Mariupol, surtout, en Europe pour Bordeaux.
Ouais, sans séparer pour Bordeaux, c'est une bonne idée, vous trouvez?
C'est un bon joueur de Ligue 1. Après, il nous a pas fait une saison régulière, il a fait des bouts comme ça avec plus ou moins de réussite pour Montpellier, ça peut être une bonne pioche évidemment par rapport à leur surface financière. C'est le type de joueur qui pourrait dépanner, rendre pas mal de services à des clubs de Ligue 1 en attaque, sans que ce soit un prix et un salaire que j'imagine exorbitant.
Non mais c'est vrai,
je n'imagine pas exorbitant.
C'est pas un attaquant de classe mondiale, mais je trouve qu'on lui manque. On lui montre très peu de respect à ce joueur-là. Actuellement, qu'est-ce que Bordeaux a devant? Je veux dire, je crois qu'ils auraient mieux fait de le garder. C'est un joueur, comme vous venez de dire, qui est combatif. Il peut rendre des services. Bordeaux, en tout cas, s'il venait à partir, Gaëtan Laborde, le regretterait beaucoup. Et c'est tant mieux si Montpellier le récupère, parce que pour moi, ça reste un bon attaquant de Ligue 1.
Et les Girondins, justement, qui devraient enregistrer l'arrivée d'un joueur du Barça.
Oui, selon nos informations toujours, les Girondins vont enregistrer la signature du latéral droit Sergi Palencia, 22 ans, capitaine du Barça B, pur produit de la Masia. Il passera sa visite médicale demain. Il arrive en prêt sans option d'achat. Il a notamment participé à l'International Champions Cup avec le Barça cet été.
On va voir. On va voir. C'est vrai
qu'ils avaient absolument besoin de latéraux. Devait partir, mais il est un peu blessé. Et c'est Levchouk qui a dépanné en poste d'arrière droit. C'est pas son poste. Gaïc étant à arrière gauche. Il y a encore des besoins à Bordeaux. Hein,
oui. Après, il y a l'étiquette Barça sur le joueur. Donc nous, on s'enflamme. Enfin, on s'enflamme.
On se dit que. Oui.
Non, on se dit que le joueur qui a été formé à la Masia, c'est ça, qui joue avec le Barça B. Donc c'est un joueur de ballon. Moi, je me souviens de, enfin, on s'en souvient tous de Marlon qui a été prêté par le Barça au GC Nice. Bon, il est parti à West Ham là cette saison. C'est pas mauvais, mais c'est pas voilà. Quand non, on est Barça, on s'imagine débarquer. Ouais.
Tous les joueurs qui sont sortis crack, de la Masia ne sont pas forcément, pas fait de grandes carrières.
Mais surtout ces dernières années, où ils ont eu un peu plus de mal à sortir des joueurs de très très haut niveau au Barça.
C'est vrai que bon, ils en ont certainement besoin, mais je pense que Bordeaux, c'est vrai qu'il y a Jimmy Briand qui arrive, mais je crois pas que ça suffit, encore. Je crois que Bordeaux a quand même besoin encore de renforts, même offensifs, parce que est-ce que Jimmy Briand peut tenir toute une saison?
Ils ont pris Samuel Kalou aussi.
Il y a Nicolas Depréville qui est encore.
Depréville est toujours
dans l'effectif, offensivement. On va passer à Guingamp maintenant, parce que Guingamp devrait récupérer un joueur important. C'est Ronny Rodelin. C'est quand qui va perdre Ronny Rodelin?
Oui, Fabien Mercadal, l'entraîneur canet, l'avait dit sur nos antennes. Ronny Rodelin restera à Caen cette saison. Malheureusement, il pourrait en être autrement, puisque le joueur est en passe de rejoindre Guingamp pour les trois prochaines saisons. Cependant, les deux clubs ont encore quelques détails à régler, mais l'officialisation devrait arriver sous peu.
Voilà, Ronny Rodelin qui quitte Caen, effectivement, parce qu'il est en fin de contrat.
Rodelin, s'il part, enfin, si ça se confirme, et Féric a terminé sa carrière, là, Caen, je les vois vraiment pas vraiment bien armés, difficile leur championnat.
Cinquième devant Strasbourg, peut-être.
On sait jamais.
Non, pour quand même par rapport à ce qu'a dit Samuel, je note quand même que tu nous avais dit, je me souviens très bien dans l'after, qu'il fallait absolument pas rater le match entre Angers et Nîmes. Tu t'étais pas trompé.
Il y a eu
4-3 pour Nîmes. Il avait dit, je mets même une pièce sur Nîmes et il faut pas rater ce match parce qu'il va y avoir du jeu, il va y avoir des choses. Donc non, il faut lui rendre hommage quand même à Samuel. Tu t'étais pas trompé sur Angers-Nîmes.
Non mais comme il t'a passé la pommade là.
Non mais c'est vrai, mais bon, ça a pas fait plaisir à tout le monde cette annonce là, mais bon. Non mais pour revenir, quand de toute façon je les mets dans les équipes qui risquent de voir très rapidement la Domino League, ils vont certainement
la ligue qui vont manger de la pizza.
Ouais, non mais surtout quand tu perds un joueur comme ça, parce que c'est quand même un joueur de grande classe, Rodelin. Sincèrement, moi c'est un joueur que j'aurais bien vu dans des bons clubs en Ligue 1, du genre Marseille, Saint-Étienne. C'est vraiment un bon joueur.
On se demande pourquoi il est pas allé plus haut, parce que peut-être qu'il est un peu intermittent. Très irrégulier.
Oui, complètement. Oui, mais bon, il y a des joueurs qui sont dans des grands clubs qui sont aussi intermittents, et ils y sont,
Oui, mais ils ont fait un peu plus illusion sur une saison que Rodelin, qui a fait illusion,
qui arrive capable de sortir quelques matchs intéressants.
Il aurait fallu peut-être plus croire en lui. Moi, je pense qu'il avait des réelles qualités pour pouvoir s'imposer dans
des... Je suis pas choqué qu'il aille à l'EAG.
Non, mais il sera bien en plus avec Comboiré, je pense qu'il va pouvoir le gérer un petit peu.
Et surtout, je pense qu'il va peut-être trouver un second souffle avec Antoine Comboiré.
Les rumeurs du jour, côté PSG, ça s'active pour un latéral gauche, enfin ça s'activerait, on va utiliser le conditionnel, auraient coché le nom de Danny Rose.
C'est une piste qui prend un peu de l'épaisseur du côté de l'Angleterre. On sait les liens qui unissent le club à Tottenham, parisien et Tottenham, notamment lors des ventes de Aurier et de Lucas. Voilà, donc ça serait une possibilité. Danny Rose, qui n'est plus vraiment le premier choix de Pochettino du côté de Tottenham.
Bon, ça serait une surprise quand même de le voir débarquer alors que Tottenham n'a recruté personne, que le mercato est terminé et que Tottenham n'a perdu personne. Toujours au PSG, PSG qui vise un autre joueur des Spurs. Un autre
oui,
joueur de
le milieu de terrain danois Christian Eriksen. Le PSG préparait une offre de 110 millions. Ça va prendre avec des pincettes. C'est selon le Daily Express.
Méfions-nous.
Eriksen qui n'est pas un joueur à vendre. Hein, faut le savoir. Et donc surtout,
le Daily Express, ils ont fumé quelque chose.
C'est Daily Express.
Surtout que les clubs anglais ne peuvent plus vendre.
D'abord, il y a le fair play financier, mais bon, je pense qu'ils sont sortis de l'Europe. Les roast beef, ils savent même pas ce que.
Oh, je déconne. On peut pas chambrer avec toi.
Mais si, vas-y.
Non, mais ils doivent même pas savoir ce que ça veut dire. Non, mais plus sérieusement, impossible.
Non, mais non seulement impossible.
Pour le faire financier. Et puis tu vois, Tottenham,
non seulement je vois pas Tottenham lâcher Eriksen.
Ils peuvent plus.
Et troisièmement, je vois pas pourquoi le PSG prendrait Eriksen pour le faire jouer où. Alors ils ont déjà. Alors faudrait lâcher Di Maria, Draxler.
Sur la presse anglaise, ça serait pour remplacer Adrien Rabiot. Un éventuel départ d'Adrien Rabiot.
Eriksen, il ne suit pas la Ligue 1.
C'est vraiment le délire express. Ouais.
Bon, alors on va parler de Monaco, puisque Monaco s'active. Hier, on parlait du départ de Keita Baldé. Monaco cherche un remplaçant.
Ouais, ça serait Yacine Brahimi qui serait visé. Il a encore un an de contrat du côté de Porto. Le milieu offensif de 28 ans possède une clause libératoire de 60 millions d'euros. Mais le transfert pourrait se négocier en dessous de ce prix, notamment lié à le fait qu'il ait qu'un an de contrat.
Brahimi, a priori, ça serait pas mal, ça. Ouais. Brahimi qui avait fait très mal à Monaco en Ligue des Champions.
Mais a priori, c'est pas très chaud. C'est tiède.
Ah. Mais c'est tiède dans quel sens? On sait pas.
Dans le sens de, il vient pas en principauté. C'est tiède. Ça peut se faire, comme ça peut vraiment ne pas se faire. Mais si ça se faisait, entre Golovin, un Tillmans qui montre tout le potentiel qu'on lui accorde, et Brahimi, qui est en plus de ça un excellent tireur de coups de pied arrêtés, là, ça retrouve de la gueule, le milieu monégasque.
Non, c'est un joueur de grande classe. Il a montré, de toute façon, à chaque fois à Porto, ici, en France, quand il était là, personne n'a cru en lui. C'est vrai que quand il était jeune, c'était un joueur qui était un peu, on va dire un peu foufou. On voyait qu'il avait des qualités. Non, si Monaco fait ce coup-là, je pense que ça serait vraiment un grand plus pour Monaco. Et surtout, ça serait bien pour la Ligue 1 aussi.
Ben voilà, il y a un grossi. Il y a un grossi, apparemment.
Un grossi.
Ah, si un grossi. Monaco fait ce coup-là, il y a
un grossi.
Grossi, c'est pareil.
Je crois que Valentin n'avait pas compris non plus.
Il y a un grossi.
Qu'est-ce que t'as grossi? Tu crois qu'il y a un grossi? Ouais. Non, mais c'est parce qu'il est tard, il est 23h42, donc il y a un grossi. On part à l'étranger maintenant, Valentin, avec un champion du monde qui arrive à la Roma. Alors ça, c'était pour le coup dans les petits papiers depuis longtemps.
C'est officiel, hein. Depuis aujourd'hui, Steven Nzonzi va s'engager, s'est engagé avec l'AS Roma, hein. On le savait depuis quelques jours. Donc il a quitté le FC Séville pour 30 millions d'euros. L'ancien joueur de Stoke City est arrivé à Rome, où il y a beaucoup de supporters de la Roma qui l'attendaient.
Avant Séville?
Oui, avant Séville, bien sûr. l'attendaient en masse. Voilà. Donc il a passé avec succès sa visite médicale. Voilà pour un champion du monde de plus en Italie. Alors, après Maldini.
Je me souviens, moi, d'un avis tranché de Samy Poix qui nous disait, dans l'after, non mais c'est un avis tranché très intéressant, il nous disait que il aurait bien aimé que les champions du monde reviennent en Ligue 1, que l'effet Coupe du Monde permette à des joueurs comme ça de revenir aussi en Ligue 1, aussi des joueurs proches de l'équipe de France
c'est le premier transfert de champion du monde cet été.
Et Nzonzi, c'est peut-être dommage de pas le voir revenir en Ligue 1 alors qu'il aurait pu rendre beaucoup de services, notamment à Marseille par exemple, au milieu de terrain, au PSG.
Non, moi je pense que c'est des opérations financièrement trop élevées pour
le PSG, ils peuvent facilement.
Paris Saint-Germain, pourrait avoir eu besoin
d'un. Ils ont peut-être pas besoin d'Nzonzi.
D'un 6, ça dépend ce qui va se passer. Enfin, Nzonzi, maintenant c'est terminé la signature.
Je pense que après, peut-être est-ce qu'il plaisait à Tourelle. Ça c'est encore autre chose.
Oui,
peut-être que le joueur
aurait
pu se faire. Maintenant, peut-être que Tourelle a dit que non, moi c'est le genre de joueur peut-être que j'aime pas trop. Maintenant à la Roma, je pense qu'il tombe aussi dans une bonne équipe.
Ouais. Tu sais, Nzonzi, c'est un joueur. Il est vraiment très intéressant quant à la possession. En revanche, quand ça se passe un peu plus difficilement pour son équipe, qu'elle est bougée, bousculée, c'est un peu plus compliqué pour lui.
Il y a une question de. Pourquoi c'est compliqué ? Il va au charbon, lui.
Attention, il va au charbon. Je dis pas qu'il va pas au charbon, mais une fois que t'as récupéré le ballon dans la phase de transition, c'est un joueur qui est excellent quand il faut temporiser. Il a plutôt un profil un peu la Thiago Motta. En revanche, s'il faut
Ah non, il s'est cassé les lignes
un peu plus le ballon. Ouais, mais
Moi, je l'ai vu dans quelques situations au FC Séville où il fallait accélérer le jeu. C'est pas un accélérateur de jeu. C'est pas un accélérateur de jeu.
En revanche, Gonalon risque de devoir trouver un autre club, hein, parce qu'il est pour le coup concurrent direct de Maxime Gonalon, qui jouait plus beaucoup à la Roma.
Depuis qu'il est arrivé, c'était peut-être une erreur de casting pour lui là-bas, en allant là-bas, rien que déjà pour sa carrière, je crois que.
Jonathan Macardy, qui nous écoute sans doute, nous disait, Gonalon pour le coup, il pourrait revenir en France. Pour rendre des services.
Ça ferait quelques affaires de
Mais bon, quand tu as joué à Lyon, où est-ce que tu reviens? Tu peux pas peut-être revenir à Marseille?
À Saint-Etienne?
Pourquoi?
Je sais pas, une question.
Non, à Saint-Etienne, oui, peut-être que c'est compliqué pour Saint-Etienne. Mais,
à Saint-Etienne, non, il peut pas jouer à Saint-Etienne.
Il joue à Saint-Etienne et qu'il habite à Lyon.
Non, c'est une bonne pioche, Gonalon. S'il doit quitter Rome, parce que la concurrence est trop rude pour lui.
C'est une bonne pioche, voilà. Mais François, c'est encore une fois, je veux dire, il faut savoir l'état du joueur aussi. Je veux dire, si déjà, il faut connaître un peu les raisons pourquoi il jouait pas à la Roma.
La concurrence, il y avait Golan, De Rossi,
il y avait du monde au milieu. Trotman aussi, bien sûr.
Le niveau, et c'est pas le niveau qu'il a connu à l'Olympique Lyonnais, où c'était il avait mieux dit, il était dans un confort, c'est son club formateur, voilà, il s'est mis ce challenge, il l'a pas relevé.
Pourtant, c'est un international français quand même, hein, c'est une plein de...
Un autre international, un autre français, et un autre... Notre recrue en Italie, c'est Bakayoko qui débarque à Milan, c'est ça?
Oui, c'est officiel. Il est un joueur du Milan AC. Il est prêté sans option d'achat, avec option d'achat par Chelsea, où il n'entrait pas dans les plans de Maurizio Sarri. Il sera présenté à la presse ce vendredi.
International, une sélection. Thiemwe Bakayoko.
Ça suffit à faire de toi un international.
On en a parlé hier, François, avec Jonathan. On n'avait pas eu l'avis de Sam sur Bakayoko. On se posait la question, est-ce que c'est vraiment un joueur de classe mondiale?
Non.
Oui, mais c'était la question que je posais à Samuel. Oui, mais là, on a déjà répondu hier, nous.
Oui.
Samuel.
Bon, c'est un bon joueur professionnel maintenant, de classe mondiale, non. Je crois que ces échelons-là, il n'arrivera pas jusque-là. Ça reste.
Alors, on l'a vu trop haut, quoi, avec Monaco? C'est ce que tu veux nous dire?
En tout cas, moi, je l'ai jamais vu à ce niveau-là.
Il a fait une très très belle saison.
Même en étant à Monaco, tu savais bien qu'il pouvait pas atteindre des. Quand tu vois, si tu fais la comparaison avec certains joueurs qui jouent à son poste, tu le vois complètement un peu en dessous. D'ailleurs, ça n'a jamais été pour Deschamps un joueur qui pourrait être un titulaire ou quelqu'un qui pourrait déplacer ou pourrait le perturbé un peu dans sa composition de match.
Il a eu une sélection très très difficile.
Oui, effectivement. Ça a été vraiment compliqué pour lui. Ouais. En Chelsea, il n'a pas réussi à
il n'arrive pas à passer un palier.
Voilà, je veux dire, même là, en allant à l'Inter, j'ai même des doutes.
C'est à l'AC Milan.
À l'AC Milan, j'ai même des doutes.
Mais il a le cœur interiste, toujours, Samuel, qui est passé, lui.
National.
Merci Valentin, tu peux rester, si tu veux, pour le quiz, pour aider François, qui a bien besoin d'aide.
Avec plaisir.
Donc reste avec nous. On vous attend au 32-16, c'est dans un instant le quiz de l'after. On vous donnera aussi quelques petites infos, et si vous voulez gagner des places pour Equalizer 2 avec Denzel Washington, eh bien c'est dans l'after que ça se passe sur RMC. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, François Pinet.
Allez, encore une dizaine de minutes ensemble dans l'after sur RMC, sur RMC Sport. Si vous voulez voir en vrai, vous vous branchez sur la RMC Sport News pour voir
en chair et en os.
Pour voir en chair et en os François Manardo et Samuel Ipoix.
Et François Pinet.
Non, mais moi.
Mais si, Ipoix.
Et Valentin Rodriguez qui est resté avec nous dans un instant le quiz. On vous attend au 32-7. J'ai des fans, j'ai des haters aussi, mais comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas grave. Ah, d'ailleurs, je voulais dire, passer un petit coucou à Randy, que j'ai croisé tout à l'heure en allant au travail, qui est un fan absolu de l'after et qui nous écoute tous les soirs. Donc s'il nous écoute, Randy, je pense qu'il nous écoute.
Bonsoir,
je
le salue.
Et voilà, il vous adore aussi.
Et Randy,
je vais pas parler de François Manardo.
Il va faire une installation chez toi.
Non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. On croise des fans de l'after. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait l'after un petit peu.
C'est la première fois que t'as. T'es mytho. En plus, t'étais un peu connu avant. Tu faisais régulièrement de l'antenne une chaîne.
Bref.
Mais si. D'ailleurs, il t'a dit, mais pourquoi on vous voit plus sur.
Il se souvenait d'où je venais. Voilà. Mais il m'avait vu la veille dans l'after. Parce qu'il regarde. Il nous regarde. Non mais ah, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité à chaque fois. Tour Lens, c'était de la Coupe de la Ligue, premier tour. Vous savez qu'il y avait les clubs de Ligue 2 qui étaient engagés et les clubs de National, quatre clubs de National qui sont qui ont le statut professionnel et donc qui peuvent participer à ce premier tour de Coupe de la Ligue. Le but lensois, le voici, Sagnan qui marque dans les tout derniers instants pour la victoire de Lens 1-0. Lens qui élimine donc Tours. Il y avait également Valenciennes Lorient qui était programmé. Valenciennes et qui a perdu contre Lorient. Une victoire lorientaise 1-0 seulement. Le but est signé Edjouma à la 26e minute. Et puis dans les autres résultats, après un bon travail de Jimmy Cabot, dans les autres résultats de ce premier tour de Coupe de la Ligue, on va noter le succès d'Auxerre face à Ajaccio 3-1. Châteauroux s'impose face à Niort 1-0. Victoire de Clermont à Laval 3-0. Le Havre bat Bourg-en-Bresse 2-0. Victoire de Metz 2-1 face à Grenoble. Nancy bat le Red Star 1-0. Bah oui, ça fait plaisir. Orléans qui bat Béziers 2-1. Et puis la victoire de l'AC Ajaccio face au Paris FC 1-0. Victoire de 3 à Quevilly-Rouen 2-1. Ce qui nous donnera au programme dans deux semaines, 28 août, Ajaccio-Lorient, Lens-Metz. Ça sera un choc quand même de ce deuxième tour. Le Havre-Brest, Nancy-Orléans, Auxerre contre Châteauroux et 3 face à Clermont pour voir l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Ça sera un peu plus tard, fin octobre, pour le troisième tour. Il y avait également des matchs de Ligue des Champions, le troisième tour préliminaire. Et on va noter la qualification de Benfica s'impose. Benfica face à Fenerbahçe, donc qui fait match nul, un but partout, mais qui profite de sa victoire 1-0 à l'aller. Qualification de Benfica, qualification du Dynamo. Dynamo Kiev face à Slavia Prague, du Baté Borisov face à Karabakh, du PAOK Salonique face au Spartak Moscou.
Molvidi, faut me dire qui c'est. Hein.
Vidi, alors c'est Vidéoton, le club hongrois. Voilà. 0-0
sur les synthés parce que non mais c'est Vidi aussi. C'est PAOK Salonique.
C'est PAOK Salonique. L'AEK Athènes qui sort le Celtic. Ça c'est une grosse surprise quand même de voir l'AEK Athènes sortir le Celtic. Et puis l'Ajax d'Amsterdam qui s'impose facilement 3-0 face au Standard de Liège et qui se qualifie.
Voilà. Puisque tout le monde fait des saucisses sur le synthé, moi j'en ai fait deux. Donc Ferré, il a pas pris sa retraite, je me suis gouré, il est sur le point de signer à Auxerre. Et j'en ai fait une autre qui me revient plus. Quand ça me reviendra, je vous le dirai.
Voilà, Ferré n'a pas pris sa retraite.
Alors, c'est vous parce que
Marlon, qui veut nous parler des saucisses et il s'en souvient plus.
N'est pas à West Ham, il serait sur le point de s'engager avec Sassuolo.
Bon, très rapidement, quelques petites infos juste pour vous dire, puisqu'on parlait de Valenciennes-Lorient. Vous savez que Lorient-Valenciennes c'était prévu pour la 4e journée de Ligue 2. Vendredi, se disputera à Bordeaux et non pas à Lorient en raison de l'état impraticable de la pelouse du stade du Moustoir. Pourquoi ? Et parce qu'il y avait le festival interceptique de Lorient.
Mais ça, c'est
à Lorient.
Quand même le truc, il est
et donc ils sont obligés de jouer à Bordeaux.
C'est prévisible. Mais ça, c'est un peu fou encore en France, quoi, des situations comme ça. Si t'as eu une intempérie.
Est-ce que les pelouses devraient être juste réservées, les stades réservés ?
Tu sais, t'as le festival intersectique, ça doit être depuis un an dans le calendrier du club. Enfin.
Bon, et puis un petit mot pour
c'est du laxisme.
Fêter quand même juste la folie Bielsa, voilà, toujours à Leeds en deuxième division anglaise après deux matchs et deux victoires en deuxième division, il a conquis les fans de l'équipe. Juste un tweet relayé par la presse britannique, le tweet d'un fan: je suis avec ma femme depuis 15 ans, nous avons un fils génial et avons partagé de très grands moments, mais il a fallu une équipe de Leeds coachée par Bielsa pour qu'elle puisse enfin me voir heureux.
C'est beau.
C'est beau et terrible à la fois.
C'est pas du tout excessif, mais c'est beau.
Ah, mais c'est inquiétant pour elle,
hein. Bah, oui, pour lui. Ouais, allez, le quiz, il reste 4 minutes. Le quiz de l'after, c'est parti.
Et quoi, les heures 2?
Un spécial Super Coupe d'Europe. Real Madrid, Atlético Madrid, on vous rappelle demain. Corentin et Nordine sont avec nous au 32-16. Salut, messieurs.
Bonsoir François.
Corentin, il m'aurait mis deux baffes, quand j'ai dit que c'était
Alors, Corentin, tu veux jouer avec qui?
Non, il prend François, ben oui, lui,
toujours. Corentin avec François. Et Nordine, ça te va, tu es avec Samuel.
Ouais, voilà.
C'est parti. Allez, le quiz sur la Super Coupe d'Europe. De quand date la première finale de Super Coupe d'Europe? Faux.
73.
Faux.
71.
Non.
Allez, Sam,
idée. 83.
Non, 70.
77.
Non. Oh, mais non, attends, la première finale.
De quoi?
De Super Coupe d'Europe.
Mais c'est au début des années 70. Ça peut pas être 74.
74.
Non. Si.
Ajax Amsterdam, AC Milan. Bah, dis donc.
Non. Attends, alors on va revoir le quiz.
Bah, écoutez, c'est Adrien qui l'a préparé.
Ouais, parce que au début, c'est pas une compétition reconnue par l'UEFA. Et c'est contre les Rangers, il me semble. J'en ai parlé hier soir des origines.
Ça
de
fait
la
un
Super
point
Coupe.
Pour toi, donc voilà. Quels sont les recordman de l'épreuve, ceux qui ont remporté le plus de Super Coupe d'Europe?
Le Real. Non, le Real.
Non. Barça, c'est Corentin qui l'a dit.
2-0.
Ça fait un point pour Corentin. Il y a un autre club. Je peux vous donner un autre.
Milan.
C'est ouais. Nordine, ça, hein,
oui.
C'est ça.
Oui,
ça fait
2-1.
Allez, ça fait 2-1. 2-1.
Bravo Nordine.
Pour l'équipe de Corentin face à Nordine et Samuel. Quel est le pays le plus titré?
Espagne,
c'est Samuel qui a été le plus rapide. Merci. 2-2. Barcelone, le Real, Valence, l'Atlético Madrid et Séville ont gagné. Quel est le pays ayant le plus mauvais ratio, qui l'ont joué
la
le
France,
plus de fois et qui ont le plus de fois perdu?
L'Allemagne.
L'Allemagne. Bonne réponse encore de Samuel. Oui, avec Sandrine, ça fait 3-7 défaites en 8 participations. Seul le Bayern l'a remporté en 2013. Quel stade a le plus accueilli la Supercoupe d'Europe?
Monaco.
Le stade Louis II, ça se l'accorde. Ça fait 3-3.
Tu l'accordes, mais c'est juste.
16 fois. Donc 15 fois d'affilée entre 98 et 2012. 4 clubs ont joué seulement 2 finales de Supercoupe d'Europe dans leur histoire et les ont remportées à chaque fois. Un 100%.
Real?
Quels sont les clubs?
Pas le Real?
Il y en a 4. Non, il n'y a pas le Real.
Liverpool?
L'Ajax?
Forest?
Milan?
Non.
Bayern?
Borussia?
Non, toujours pas.
L'Atlético Madrid.
L'Atlético Madrid. Ça fait un point.
L'Atlético Madrid. L'Inter?
Naples?
Non, toujours pas. Bon, vous avez perdu. On passe à autre chose, hein, parce que vous n'y arrivez pas.
C'est qui?
La Juventus.
Mais je l'ai dit, la Juve.
Allez, la Juve, tu l'as dit. 84-96. Alors, ça fait 4 partout. L'Atlético Madrid 2010-2012, tu l'as dit. Valence 80 et 2004. Et Anderlecht 76 et 78. En 77, Terry McDermott a inscrit un triplé. Depuis, un seul joueur l'a imité. C'était en 2012. Qui est-ce?
Forlan.
Un indice.
Non, Falcao.
La finale opposait Chelsea à l'Atlético Madrid, c'est Falcao, c'est bon. Allez, ça fait 5 pour Corentin et François. 5-4. Qui suis-je pour finir? On a le temps très rapidement. Depuis 98, est décerné le prix d'homme du match de la Supercoupe d'Europe. Cette année-là, c'est un milieu uruguayen de Chelsea qui remporte le trophée individuel. Il marque le seul but de la finale. Poyet, bonne réponse. Allez, on va dire la victoire de François. Bravo.
Et Corentin.
Victoire de François et Corentin. Corentin, tu gagnes deux places pour
Equalizer.
Tout avec Denzel Washington. Bravo Corentin. Merci beaucoup Nordine d'avoir joué. Tu rejoueras la prochaine fois sur RMC. Bravo François, tu t'es rattrapé d'hier. Bravo quand même à Samuel. Merci à Valentin. Merci à vous. Demain, c'est Gilbert Bribois qui reprend les rênes. Attention, ça va pas rigoler. Il sera là pour parler de Strasbourg comme tu veux avec lui, Samuel. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur RMC à la radio, sur RMC Sport News, maintenant à la télé. N'hésitez pas à vous brancher sur la télé pour nous voir. Ou sinon, vous restez fidèles à l'after à la radio, c'est bien aussi. Gilbert Bribois demain, 22h minuit. Bonne soirée sur RMC. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à bientôt.
Ciao. Salut.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot. We'll be right back.